Celle-ci, c'est la meilleure.
Carrefour du Maghreb, Juliette Rangeval.
Bonjour, c'est une musique, un élan, la voix de la jeunesse algérienne tout au long du XXe siècle. Cette semaine, nous parlons du raï auquel l'Institut du monde arabe de Tourcoing consacre une exposition enthousiasmante, très ludique. L'expo s'appelle « Yaraï, une histoire de la musique raï ». C'est jusqu'au 27 juillet prochain. Et nous en parlons avec la commissaire de l'exposition, Naïma Yahi. On va essayer de retracer cette histoire du raï avec vous depuis l'entre-deux-guerres, l'Oranie des années 20. C'est une musique rurale, c'est une musique urbaine au tout début.
Alors, c'est une musique bédouine, c'est une musique nomade, c'est une musique du pays profond qui va connaître les affres de la colonisation et qui va se citadiniser, donc s'installer en ville, notamment dans les villes de l'Oranie et la première d'entre elles, Oran. Et c'est à partir de ce port de la ville d'Oran que le voyage du raï va commencer.
Et il va commencer en étant là toujours une musique qui adopte les codes, qui adopte la vie de la cité.
Oui, en sachant que le véhicule poétique qui est le raï, c'est celui de l'opinion, de la libre pensée. Donc ces libres penseuses d'abord et penseurs ensuite vont œuvrer d'abord dans des lieux de relégation, des lieux interlopes. Donc des cafés morts, des bars, ça c'est pour la dimension profane du raï. La dimension villageoise, elle va plutôt embrasser la dimension religieuse, donc la célébration des saints, et va accompagner les rites de passage, les mariages, les circoncisions, les enterrements, etc. etc. Et c'est ce double mouvement, c'est presque contradictoire, mais ça s'unit autour de l'enjeu de la libre pensée. Et c'est ça qu'on raconte dans la musique raï.
Les femmes ont une place extrêmement importante dans la musique raï.
Alors il y a deux typologies de groupes de femmes qui vont très tôt marquer le répertoire. Il y a celle de ce qu'on appelle les meddahat, les louangeuses, qu'on embauche le temps d'une cérémonie, qui vont célébrer avec des chants sacrés les grandes figures de l'islam et se référer à la mystique autour de la vie du prophète Mahomet. Et d'autres qui vont, une fois la nuit tombée, les rideaux tirés, s'engaillardir et raconter tout ce qui nous passe par la tête, les désirs, la sexualité, la liberté, les problèmes, les cœurs brisés, le patriarcat. Ça, c'est une réalité. Et ensuite, il y a celles qui auront un itinéraire d'artistes professionnels. Elles sont très peu nombreuses. L'exposition évoque Sheikha Khaira Gendil, qui était avec Sheikh Hamada, peut-être la seule grande voix féminine de l'entre-deux-guerres et peut-être l'illustre ancêtre d'une grande dame qu'on connaît toutes et tous, c'est Sheikha Remiti.
Oui, Rimiti, même ceux qui ont une idée très très lointaine du raï connaissent sa voix. Pourquoi est-ce qu'elle a marqué tellement l'histoire de cette musique et si longtemps?
Je pense que c'est sa rectitude et son authenticité qui ont plu des deux côtés de la Méditerranée, voire à l'international. Elle ne s'est pas départie de ses robes oranaises traditionnelles, de ses tatouages, de ses tenues, de ses bijoux. Et de sa capacité à incarner cette voix féminine du raï avec une voix extraordinaire. Mais pas que, c'est aussi le personnage qui a marqué l'avènement de la world music, lui aura permis très tard dans sa carrière de rencontrer le public occidental. Elle a marqué, je dirais, par son authenticité.
Vous, vous la connaissiez, quel souvenir vous gardez d'elle?
Moi, j'en garde un souvenir ému. C'était une grande dame de la chanson, d'une forte générosité, qui vivait dans une très grande simplicité et qui ne mesurait pas forcément son statut de star. Elle pouvait remplir quand même des grandes salles parisiennes comme le Zénith. Elle est inoubliable, c'est une icône.
Et ce premier endroit où je voulais vous emmener, ce sont ces images consacrées au Meddahat. On voit, elles ont l'air coquines sur
elles
les photos.
Elles sont coquines, elles sont libres et heureuses. Et c'est ce bonheur teinté aussi de la douleur. Les vies parfois brisées, les difficultés, les drames qui traversent les imaginaires, les répertoires et l'expérience de vie des Meddahat. C'est souvent une vie de femme un peu montrée du doigt, de femme un peu à part, mais qu'on va chercher à des moments forts de la vie de la cité. Et je voulais ici restituer leur poids central dans ce patrimoine. Parce qu'on en connaît peut-être un peu plus les figures masculines dans le monde du showbiz.
Oui, de la pop musique.
On connaît plus les moustaches de nos chanteurs et chèbes préférés que ces silhouettes féminines qui chantent dans leurs robes flamboyantes. Même si on connaît ces Rimiti, pour combien de Rimiti nous n'avons pas eu d'égard. Et c'est ce qu'on veut raconter dans cet espace du privé, ce cénacle, ce gynécée des femmes oranaises.
L'autre endroit où nous allons aller, nous passons donc la porte de Disco Maghreb, cette boutique emblématique, producteur et distributeur de rails à Oran jusqu'en 2005. Et j'aimerais qu'on s'arrête un instant devant cette guitare électrique, parce que le rail, c'est aussi ça. C'est aussi des instruments qui sont complètement des instruments de l'Occident.
Cette guitare électrique qui nous a été prêtée par Khalif Mizia Alaoua, qui était le guitariste de Cheb Mami, est un grand musicien. Aujourd'hui, on le retrouve au sein de l'Orchestre National de Barbès, par exemple, qui a fait des grandes écoles de jazz et de rock, mais qui s'est retrouvé à faire du rail. Alors, la passerelle n'aurait pas été évidente, mais elle l'est, puisque c'est un artiste d'origine algérienne. Et c'est cette fusion musicale qui va être possible, car cette tradition poétique, comme on l'a vu dans l'exposition qui est ancienne, elle va rencontrer une génération, notamment celle qui avait 20 ans dans les années 70, qui écoutait les Shadows, ou les Who, ou les Rolling Stones, et qui a été plutôt biberonné par les riffs de guitare de ces guitareros, mais qui avait une tradition poétique bien ancrée et une transmission réelle. Et les grandes voix rail des années 70 n'auront pas peur de faire appel à cette jeune garde qui va révolutionner la façon de faire et de la guitare et du rail, puisque vont introduire la notion du quart de ton. La manière de jouer de la guitare rail, elle vient en elle-même redéfinir la pédale wah-wah pour en faire une pédale wah-wah, comme disent certains. Et c'est cette réalité-là qui va faire de l'album qui est juste à côté de Rai Na Rai en 82, qui s'appelle Hagda, qui recèle de ce tube qu'on entend systématiquement dans tous les films documentaires et les films de fiction qui parlent des Algériens. C'est la chanson Yazina, qui s'ouvre sur un solo de guitare mythique de Lotfi Attar, qui nous a fait l'amitié de répondre à nos questions.
Cette musique, elle va épouser tous les soubresauts de l'histoire algérienne. Et les femmes, alors, elles vont toujours pouvoir se produire?
Elles vont souffrir, si vous le voulez, de tabous liés au patriarcat. Je pense à une Rimiti a pu se produire très tôt, très jeune, mais sous couvert d'anonymat. C'est des femmes qui se cachaient derrière certains voilages pour ne pas chanter à visage découvert ces paroles parfois libertines. Mais elles n'ont pas été plus menacées que les hommes. Les hommes ont tout autant été sujets de pression, voire de crimes, puisqu'on évoque la mémoire de deux grandes figures rail des années 90, que sont Rachid Baba Ahmed, le grand producteur de musique rail et rock algérien, ou encore le grand Cheb Hasni, tous deux assassinés à quelques mois d'intervalle dans cette période sombre de la décennie noire. Et donc, les femmes comme les hommes ont eu à se battre pour leur liberté. Et certaines, comme par exemple Zahwaniya, qui chantent toujours aujourd'hui, ont été de ces combats pour le droit des femmes à s'exprimer, notamment dans le champ de la musique rail.
Vous parlez de la décennie noire, alors c'est un peu le paradoxe de cette musique, c'est l'explosion sur la scène internationale. Le monde entier entend parler du rail, alors qu'en Algérie, on égorge, on tue.
Ce paradoxe qui est propre à l'histoire algérienne, puisque c'est aussi vrai que cette fameuse guerre d'Algérie qui a mis plus de 50 ans à se dire guerre d'Algérie, qui a été à la fois un moment de libération pour l'Algérie et un moment d'exil massif pour les Algériens. Eh bien, cette réalité duale avec cette ancienne puissance coloniale est une réalité physique, puisque là où on veut faire taire les artistes et leur liberté d'expression durant cette décennie noire en Algérie, qui, je le rappelle pour nos auditeurs, dure à partir du moment où le processus électoral a été arrêté en janvier 1992 jusqu'au début des années 2000, cette période-là est aussi paradoxalement celle de l'avènement en Occident de ce répertoire et des figures qui vont l'incarner, puisqu'on pourra même citer un certain Cheb Mami qui sera côté de Sting au Super Bowl en 2001, mise à l'honneur.
Ladies and gentlemen, along with special guest Cheb Mami, please welcome Sting to the Super Bowl.
Donc cette acmé de la musique rail dans le monde occidental va se fracasser au sortir de la décennie noire à la déflagration que constitue le 11 septembre 2001 et cet avènement du choc des civilisations qui opposerait un bloc arabo-musulman à un monde occidental judéo-chrétien. Donc c'est à grands traits un peu les séquences historiographiques qui vont enfermer ce répertoire dans la réalité géopolitique du moment.
Finalement, aujourd'hui, les plus jeunes, grâce au digging, vont retrouver la musique rail, vont retrouver ces accents-là et elle disparaît sans disparaître.
Elle se réinvente, elle est réappropriée par une nouvelle génération d'artistes qui produisent des musiques un peu à la croisée de ces influences rail et populaires. Je pense aux Zinkraoui, qui est une nouvelle nuance du rail qui fait fureur aujourd'hui en Algérie, mais aussi de ce côté-ci de la Méditerranée. Je pense à la scène électro qui s'en empare et ce fameux tube de l'été de DJ Snake, éponyme de cette boutique dans laquelle nous discutons cet après-midi, qui s'appelle Disco Maghreb, puisque l'exposition reproduit la boutique Disco Maghreb. Et cette boutique mythique, le corner rail de la place centrale d'Oran, est célébrée par DJ Snake et qui en a fait un tube mondial et a permis peut-être à remettre l'Algérie sur la carte du monde. Et c'est ce retour en grâce des figures, des chansons et des lieux de mémoire du rail qui nous offre aujourd'hui l'opportunité de toucher un nouveau public plus jeune qui peut écouter par exemple un Cheb Bello ou une Warda Charlemonti qui sont des chanteurs de rail qui se sont fait connaître sur YouTube en fait.
Il y a donc des endroits qui sont extrêmement ludiques. Il y a des
phony box,
des phony box
où le visiteur peut de manière autonome écouter soit des cassettes, soit des CD. Bien sûr, c'est une œuvre, hein, ce sont des artefacts où on est libre de découvrir ce qui se cache derrière ces belles pochettes de chanteuses et de chanteurs.
Et puis, on peut chanter du karaoké, on peut faire un jeu vidéo, on peut apprendre à danser le rail.
Le mouvement de base, pour danser sur du rail, vous pouvez juste marcher, vous voyez, sur place, et mettre vos bras comme ceci.
Ça vient de vous ? C'est quelque chose qui vous tenait à cœur de pouvoir rajouter tous ces...
Nous voulions que le visiteur puisse avoir une expérience interactive. Quand on met en scène dans la scénographie de la musique, l'histoire de la musique, la question c'est l'expérience de visite. Et on tenait vraiment ici à l'Institut du Monde Arabe de permettre pleinement au visiteur de le vivre, cette expérience rail, et peut-être de le célébrer. Et donc cette invitation au karaoké, parce que c'est unique au monde, on peut chanter du rail en karaoké, dans un cabaret, puisque les lieux de nuit où on dansait sur le rail ont été aussi pour beaucoup dans ces expériences de visite. Et le jeu s'invite également par l'œuvre d'un artiste qui s'appelle Amin Apti, qui a proposé cette œuvre unique d'un jeu d'arcade autour de la figure de Shep Hasni. Et cette expérience ludique vient compléter un panel d'interactions dans l'exposition qui permet en plus de découvrir, de s'inscrire ou de revisiter son passé musical rail, de effectivement s'amuser et de pratiquer le rail. Donc avis à nos Cheb et Cheba qui nous écoutent, on vous attend dans le cabaret et on vous attend pour jouer avec nos belles œuvres mises à disposition jusqu'au 27 juillet prochain. Tellement je t'aime, je rêve de toi, tellement je t'aime à la folie. Toutes les pièces qu'on voit ici viennent de collections privées. Ce sont des collections privées. Nous avons notamment la FRAC Aquitaine qui nous a prêté cette œuvre de Pierre et Gilles qui, dans les années 90, avait immortalisé les moustaches de Cheb Khaled dans ces fameuses photos peintes flamboyantes qu'on connaît bien. On a également mis à disposition des disques d'or d'expériences discographiques marquantes, comme par exemple le fameux Rye & Bee Fever, dont on célèbre les 20 ans cette année, qui avait quand même rempli Bercy à plusieurs reprises et qui avait terminé cette fusion du R&B avec le rail au début des années 2000, ou encore une nouvelle génération d'artistes de France et d'Algérie, comme Iman Ziani qui offre le visuel de l'exposition avec ce triptyque qui met en valeur Rémiti, Khaled et Cheb Hasni, ou encore Anouar Boudia qui ici revisite les symboles pop du rail dans l'imaginaire franco-algérien.
Vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, vous avez signé des grandes expositions sur l'histoire de la culture du Maghreb en France. Vous êtes de Tourcoing, j'ai appris.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui s'est joué là ?
C'est la boucle qui est bouclée, puisqu'effectivement, moi, j'ai grandi à Tourcoing. C'est ici que j'ai reçu cette culture franco-maghrébine et particulièrement algérienne. Et mon propos intellectuel et artistique, depuis, c'est de faire connaître une part de son patrimoine à la France qu'elle n'a pas su voir ou qu'elle n'a pas voulu voir et de rappeler son commun avec l'autre côté de la Méditerranée. On le voit dans l'exposition, c'est une histoire en commun, même si elle prend comme point de départ une culture algérienne dans un terreau algérien, il se fait dans des départements français colonisés et il se déploie à partir de la diaspora de ce côté-ci de la Méditerranée à l'international. Et donc ce contexte, ce faisceau colonial, moi j'en suis le produit personnellement. Et il m'a semblé important de restituer dans la scénographie la dimension émotionnelle qui peut me caractériser quand je parle du rail, mais aussi des éléments tangibles d'évolution instrumentale et de ce marché des biens culturels que sont les supports, 78 tours, vinyle, 45 tours, ensuite cassette qui a été très importante dans le développement rapide du rail contemporain, et enfin CD et aujourd'hui DJ. Et c'est ces supports-là aussi qui sont intrinsèquement liés à ce patrimoine de la musique rail qui est quand même entré au patrimoine mondial immatériel en 2022. Et c'était important pour moi de rappeler ce commun dans un contexte où ça ne vous a pas échappé. On questionne la relation de la France à l'Algérie.
Carrefour du Maghreb à l'Institut du Monde Arabe de Tourcoing dans le nord de la France pour l'exposition Yaraï, à la réalisation et aux moyens externes. Françoise Grelot, à bientôt.